J'ai le privilège ce matin d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et voilà, que Dieu nous guide dans ce temps de méditation. Ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse à une posture qu'on peut avoir et qui consiste à nous dire à nous-mêmes « Tu as fait une bêtise, maintenant tu assumes ». Alors c'est une posture qui sous-entend de belles choses, comme la responsabilité et la volonté de réparer. Et en effet, Dieu nous a créés comme des êtres agissants et responsables. On ne vit pas dans le chaos originel, comme dans la Genèse, la terre était informe et vide. En créant le monde, Dieu a établi des règles et il les garantit. Ces règles font que nos actes ont des conséquences. Cela nous permet de leur donner du sens et de pouvoir en répondre. Et c'est une bonne chose. Mais malheureusement, nous sommes et restons aussi pécheurs et faillibles. Et notre vie, trop souvent, est éloignée du projet que Dieu a pour nous. C'est pourquoi les conséquences de nos actes peuvent être douloureuses. Et parfois, nous ne pouvons tout simplement pas les assumer, elles nous dépassent. J'ai fait une bêtise, maintenant j'assume. Je vous propose de mettre cette attitude en regard avec ce que Dieu nous dit dans le livre des Lamentations. Il y a quelques mois, quand nous l'avons abordé dans le cadre de Découvrir la Bible, j'ai été frappée par son message d'une manière nouvelle, concernant justement ce positionnement qu'on peut avoir soi-même ou rencontrer chez d'autres. Alors j'espère aussi qu'on va découvrir pour certains ou admirer à nouveau pour d'autres quelques-unes des facettes de ce diamant qu'est l'Évangile. Que faire quand on ne peut pas assumer les conséquences de ses actes ? Les contemporains du prophète Jérémie étaient dans une situation telle qu'ils ne pouvaient pas la nier et qu'il n'était pas question qu'ils réparent quoi que ce soit par eux-mêmes. Dieu les avait mis au pied du mur. Dans l'histoire qu'il a tissée avec son peuple Israël, il est arrivé un moment où il a dit « Stop, maintenant ça suffit ». Et il l'a livré aux conséquences de ses actes. C'est ainsi que l'armée babylonienne a fait le siège de Jérusalem. Un siège long et dur. Puis la ville est tombée aux mains de ses ennemis. C'est là l'arrière-plan du livre. Pour Jérémie et ses contemporains, la désolation est partout. Elle est une conséquence du rejet de Dieu et de ses lois par le peuple pendant des siècles. Rejet qui a été exacerbé dans les dernières années d'existence du royaume de Juda. Alors je sais... Et je redis avec tous mes frères et sœurs, enseignants ou autres, que tous les malheurs ne sont pas à mettre en lien avec des péchés précis. Plusieurs passages de la Bible et même un livre entier sont très clairs à ce sujet. Nous ne devons pas être inquisiteurs ou juges de ceux que Dieu a placés à côté de nous, ni porter en nous-mêmes une culpabilité injustifiée. Mais il existe aussi des situations où il est juste de reconnaître que, comme le peuple d'Israël, nous subissons les conséquences de ce que nous avons mal fait, conformément à certaines des règles que Dieu a établies dans son monde. Parfois, Dieu nous dit « Stop, maintenant ça suffit ». Dans le livre des Lamentations, nous ne lirons pas de description de la réalité cruelle que vivaient les Israélites, mais nous évoquerons quelques pistes que ce petit livre nous donne pour nous remettre en route quand nous avons péché. Alors, par rapport au diapo, on est un peu plus loin. Pardon.
Oui, non, mais là, ça a salué. Ok, merci beaucoup. On a fait le diapo.
Donc, les pistes qu'on peut trouver dans le livre des Lamentations quand on a péché sont les suivantes. En tout cas, celles que je vous propose de regarder ce matin. La première, c'est une lucidité assumée. Une souveraineté affirmée, un chagrin déversé, on reviendra à la question de la souveraineté, et enfin un chemin retrouvé. Tout d'abord, une lucidité assumée. Jérémie et ceux de ses contemporains qui l'écoutent mettent en regard ce qu'ils vivent avec ce qu'ils savent de Dieu, et ils savent qu'il est juste. Nous lisons « Mais l'Éternel est juste ». Car j'ai été rebelle à ses commandements. Au chapitre 2, l'Éternel a réalisé tout ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée depuis des temps anciens. Jérémie et ses contemporains qui suivent Dieu reconnaissent la logique de ce qui leur arrive en lien avec la justice de Dieu. Comme eux, dans nos malheurs et nos difficultés, cultivons ce réflexe de nous rappeler qui est Dieu et ce qu'il a dit. Ce qui leur arrive est le résultat du péché. Voici, Jérusalem a gravement péché, c'est pourquoi elle est devenue comme un déchet. Au chapitre 5, la couronne est tombée de notre tête. Malheur à nous, car nous avons péché. À aucun moment il n'est question de dire « c'est pas grave ». À aucun moment Jérémie ne cherche des excuses pour lui-même ou pour le peuple. Peut-être avons-nous perdu ou oublié en partie la notion de gravité du péché. Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Une lucidité assumée. Jérémie et les Israélites fidèles ne se voilent pas la face. On approche actuellement du mois de décembre, il y a la couronne de l'Avent, la première bougie. Et dans cette période de l'année où il fait souvent sombre, on aime parler de la lumière et on aime la mettre en scène un peu partout. Nous allons nous souvenir de Jésus qui est venu dans le monde comme la véritable lumière. Mais quelle est cette lumière? C'est celle qui éclaire ce qui est sombre, ce qui n'est pas beau, ce qui est sale. Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. Je viens t'éclairer, je viens te montrer ce qui doit changer dans ta vie. » Comme aux Israélites, notre Dieu nous dit peut-être « Stop, maintenant ça suffit. » Jésus vient peut-être nous montrer que ce que nous subissons est une conséquence de notre péché. Ce qui est sûr, c'est qu'il apporte un éclairage juste et bienfaisant sur nos vies. Un éclairage juste et bienfaisant sur ce que peut-être nous préférerions garder dans l'ombre avant que cela nous retombe dessus. Comme Jérémie, recherchons son éclairage et vivons dans sa lumière. Certains travers de nos vies sont peut-être des combats de longue haleine, j'en sais quelque chose, et peut-être nous sentons-nous seuls. Alors il y a quelques années, il y a une dame qui est venue chez nous, qui s'appelait Marie-Noël Lioder, elle a prêché. Plus récemment, elle est intervenue aussi à Elle est intervenue à la pastorale, voilà, de notre association baptiste. Et donc elle a écrit ce petit livre, un fascicule qui s'appelle « Acran ou accro, les dépendances au quotidien ». Et alors, ce petit livre peut être aidant dans les combats de longue haleine, et je le tiens à la disposition de qui veut après le culte. Voilà, Acran ou accro, les dépendances au quotidien, et ça s'adresse à des chrétiens. Que Dieu nous vienne en aide dans nos luttes contre le péché. Donc voilà, une lucidité assumée. Deuxième piste, une souveraineté affirmée. Dieu contrôle tout événement. Et il est même dit qu'il est l'auteur de tout événement. Et ça peut nous choquer dans certains cas. Luther, je crois, parlait de l'œuvre étrange de Dieu quand il punit. La souveraineté sans limite de Dieu peut poser question. Mais à aucun moment elle est minimisée dans la Bible, au contraire. Alors j'ouvre une parenthèse importante qui pour moi est un socle dans l'enseignement biblique, un fondement solide et qui nous vient de Henri Blocher. Henri Blocher explique bien ceci, donc un enseignement qu'on trouve dans la Bible. Notre raison, notre intellect n'arrive pas à articuler trois affirmations qu'on trouve pourtant massivement dans la Bible. La première affirmation, c'est que le mal est absolument mauvais et ne peut jamais être justifié. En fait, quand on essaye de justifier le mal, on lui donne une place et il n'est plus si mauvais que ça. La Bible affirme que le mal est absolument mauvais. Deuxième affirmation, Dieu est souverain sur tout, sur toute chose, sur tout événement. Et c'est ce qu'on verra aussi dans la suite des textes qu'on va lire dans le livre des Lamentations. Troisième affirmation, Dieu est absolument bon et à aucun moment il ne fait le mal. Alors notre raison, notre intelligence n'arrive pas à articuler ces trois vérités, à les mettre ensemble. mais il est important pour notre foi que nous les confessions, qu'on dise que c'est vrai, qu'on dise que la Bible nous enseigne ça, et qu'on les confesse ensemble. Et en fait, cela nous libère pour accueillir les réponses pratiques que notre Dieu nous donne, comme par exemple le réconfort de sa présence et le fait de savoir que Jésus lui-même a subi la souffrance injustement. Alors revenons à notre texte, nous y voyons la souveraineté de Dieu sur la situation que vivent les Israélites. Ses ennemis triomphent, c'est les ennemis de Jérusalem. Ses adversaires sont nombreux, car l'Éternel l'a affligé pour ses nombreux péchés. Le Seigneur a foulé comme dans un pressoir la population de Juda. L'Éternel a donné des ordres aux adversaires de Jacob de l'entourer de toutes parts. Au chapitre 2, il y a un passage où il est question du temple, le lieu du culte. Il a détruit le lieu de la rencontre qui lui appartenait. Le Seigneur a rejeté son autel et il a dédaigné son sanctuaire. Au chapitre 3, Jérémie parle de lui-même. « Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance, sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. » On reviendra sur le thème de la souveraineté de Dieu après le point suivant, un chagrin déversé. Du temps de Jérémie, la désolation est partout. Il n'est pas question d'assumer les conséquences de ses actes, c'est juste impossible. Rappelons-nous que le premier offensé de l'attitude des Israélites, c'est Dieu lui-même. Alors il y avait des injustices au sein du peuple, des problèmes sociaux, mais le premier offensé, c'est Dieu lui-même. Et les malheurs que les Israélites vivent sont la conséquence du mépris et des affronts qu'ils lui ont faits de manière répétée, intense et durable. Mais en fait, la porte de sortie, c'est de déverser chez lui la tristesse causée par cette révolte. Et c'est renversant. Matthieu, la semaine dernière, je crois, disait que l'Évangile renverse nos valeurs. Et c'est vraiment vrai. Et c'est ce qui m'a touchée la dernière fois qu'on a abordé ce livre des Lamentations avec Découvrir la Bible. Ce livre nous invite à venir dire à Dieu notre tristesse causée par notre révolte contre lui. Alors j'ai essayé d'imaginer des situations improbables pour qu'on arrive un peu à saisir combien cela est tout contre toute logique. Alors bon, elles valent ce qu'elles valent, ces situations. Alors essayons d'imaginer par exemple une tentative de vol. Voilà, le voleur est pris, ça se passe mal pour lui. Plus tard, il retourne chez celui qu'il a essayé de voler et il lui demande de le réconforter parce que sa vie est pourrie depuis la tentative de vol. Ou encore un salon tout propre. On y entre avec des chaussures pleines de boue. On anéantit le travail de la personne qui a fait le ménage, qui a rendu ce salon beau et accueillant. Puis on va la trouver en expliquant qu'on est triste parce que le salon est sale. Ou encore un beau jardin au début du printemps avec plein de légumes qui sont encore que des jeunes pousses. On arrache tout pour n'importe quelle raison. Et puis, on va voir le jardinier en pleurant parce qu'il n'y aura pas de légumes dans les mois à venir. Alors, c'est des situations improbables. Bon, la dernière, elle ressemble un petit peu à ce qui se passe au niveau du changement climatique, au niveau mondial. Mais bon, voilà, ce sont des situations choquantes qui sont contre toute logique et qui défient notre intelligence. Mes amis, l'Évangile est choquant, improbable. Il défie notre logique et notre intelligence. Notre Dieu, que nous avons offensé, nous enseigne, quand nous avons péché contre lui, à lui dire notre tristesse et notre détresse causée par notre péché contre lui. La Bible nous présente un Dieu que nous ne pouvions pas inventer. Merci à lui pour ce cadeau de la repentance. Dire sa douleur, on le voit dans tout le chapitre 2. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Muraille de Sion, laisse couler tes larmes jour et nuit comme un fleuve. Ne t'accorde aucune relâche, que ton œil n'ait pas de repos. Debout, que tes supplications s'élèvent dans la nuit au début de toutes les veilles. Épanche ton cœur comme l'eau, devant la face du Seigneur. Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse, ils n'ont aucun répit. Je suis bien malheureux à la vue de ce qui arrive aux filles de ma ville. N'oublie pas, Éternel, tout ce qui nous est arrivé. Regarde et vois l'opprobre que nous subissons. La joie a disparu de notre cœur. Le deuil a remplacé nos danses. Ne croyons jamais que Dieu ne veut pas nous recevoir après que nous avons péché envers lui. N'essayons pas d'assumer, de réparer uniquement par nous-mêmes. Peut-être pour cacher notre culpabilité. On ne peut pas assumer. Dieu est trop saint. Notre Dieu nous accueille et veut que nous déversions devant lui notre chagrin causé par notre révolte contre lui. Vouloir assumer est une posture qui peut être motivée par l'orgueil. Je vais m'en sortir par moi-même. Ou encore par une volonté ou un besoin de présenter une bonne image de soi, devant les autres peut-être, ou devant Dieu ou pour soi. Cela dit peut-être une forme de fragilité. On ne veut pas perdre la face, on ne veut pas être dans la honte. Dans son petit livre, Marie-Noël Lyoder fait une différence entre la honte et la culpabilité. Elle explique que la honte paralyse, empêche d'avancer, nous bloque, tandis que la culpabilité, selon la Bible, nous permet de nous placer devant Dieu et ensuite il permet qu'on se remette en route avec lui. On peut voir ça, par exemple, dans le Nouveau Testament, au moment du procès de Jésus. On peut voir chez Pierre des pleurs de repentance. Il a déversé sa culpabilité devant Dieu et on voit par la suite à quel point Dieu l'a relevé. Par contre, Judas, lui, a gardé ses remords pour lui. Il ne les a pas apportés à Dieu. Cela l'a amené au désespoir et au suicide. Je voudrais aussi relever une petite phrase qu'on a entendue dans un chant de Pat Burning que nous avons écouté pendant le culte sur le pardon. Cette petite phrase traite aussi de cette question subtile de l'orgueil quand nous sommes face à des difficultés et face à nos limites. Cette petite phrase, c'était « Je tiens toujours à toutes mes failles ». Et dans le chant, elle révèle un frein à notre capacité à pardonner. Ce matin, on peut la comprendre aussi comme un refus de laisser Dieu nous visiter en profondeur. Une visite possible si on lui ouvre notre cœur, si on se lâche, si on accepte de pleurer devant lui quand nous en avons besoin. Ne nous disons pas « j'ai fait une bêtise, je ne vais pas déranger Dieu, il a sans doute mieux à faire que de s'occuper de moi. Ce que j'ai fait est si nul, je vais assumer ». Non. Quand Dieu nous arrête dans notre course, quand nous nous sentons nuls à cause de ce que nous avons fait, les complaintes de Jérémie sont des exemples à imiter. Ne t'accorde aucune relâche, que ton œil n'ait pas de repos. Épanche ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Je verse des torrents de larmes, mes yeux pleurent sans cesse, ils n'ont aucun répit. Notre Dieu nous accueillera. Notre Dieu nous accueillera. Revenons maintenant sur le sujet de la souveraineté de Dieu. Alors, si elle peut déranger quand on réfléchit au malheur, elle nous donne aussi de la tranquillité, du réconfort. En effet, notre Dieu est le maître. Rien ne le surprend et il est puissant. Un autre sujet de réconfort se trouve dans son caractère, si on peut dire ainsi. Nous allons lire maintenant les versets qui se trouvent au centre de ce petit livre, dont la structure est très travaillée. En fait, il y a 5 complaintes, et dans les 4 premières complaintes, chaque ligne commence par une lettre de l'alphabet hébreu qui est ainsi déroulée 4 fois. Et dans la 3e complainte, chaque lettre de l'alphabet est utilisée chaque fois pour 3 lignes. Donc c'est un cadre très strict et certains suggèrent que Jérémie s'est astreint à ce cadre strict pour essayer de contenir sa douleur, qu'il s'est imposé des règles littéraires précises pour exprimer sa souffrance sans qu'elle ne le submerge totalement. C'est une hypothèse intéressante. Donc dans la troisième complainte, dans les 16 premiers versets, Jérémie dit tout ce que Dieu lui impose, tout ce qu'il lui a fait. Il parle de Dieu à la troisième personne, il utilise le pronom « il ». Par exemple, « il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. Il tourne et retourne sa main. » Ensuite, il change de pronom, il s'adresse à Dieu directement, il lui dit « tu ». Tu m'as banni loin de la paix, je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir, je n'espère plus rien de l'Éternel. Et donc, au centre de cette structure très travaillée, nous trouvons les versets suivants, les plus connus du livre. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. Dans nos malheurs, nous avons raison d'espérer, parce que notre Dieu est bon. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Celui qui châtie parfois, celui qui nous dit stop parfois, n'est pas notre ennemi. Celui qui est souverain sur le malheur est plein de bonté et de tendresse envers nous. Celui qui châtie est notre Père. Voilà encore une des réalités renversantes de l'Évangile. Notons également que Jérémie passe rapidement du désespoir à l'espérance, précisément au moment où il ne parle plus de Dieu à la troisième personne, « il », mais où il parle à Dieu, « tu ». L'espérance revient quand il se tourne vers Dieu. Voilà encore un exemple à imiter, une démarche à suivre. Parlons-nous de nos situations pour les ressasser en nous-mêmes, pour nous nourrir de notre malheur? Ou parlons-nous de nos situations à notre Dieu, pour entrer en relation avec lui à leur sujet, en fin de compte pour les déposer devant lui? Oui, venir, revenir à lui. C'est en lui que se trouve la solution, c'est en lui qu'il y a de l'avenir. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Ce chemin retrouvé, nous avons l'assurance, la certitude de pouvoir le prendre. Alors vous allez me dire, comment une telle foi est-elle possible après tout ce qui précède, le péché, la révolte, la punition de Dieu? Comment le pécheur peut-il être certain de trouver la force et la volonté de revenir à Dieu? Eh bien, c'est parce que nous ne sommes pas seuls impliqués dans ce demi-tour. Ce demi-tour est aussi l'œuvre de Dieu. Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. C'est peut-être le verset qui me touche le plus dans tout ce livre des Lamentations. Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Dieu agit en nous si nous le voulons. Encore une des merveilles de l'Évangile, difficilement explicable, mais si souvent expérimenté. C'est une nécessité que Dieu agisse en nous, mais elle est garantie. C'est impossible de faire sans, mais c'est assuré, c'est certain. Par son esprit, Dieu agit en nous. Nous ne sommes pas seuls. Et ce n'est pas dans la solitude que nous devons faire face aux conséquences de nos actes. Ce retour à notre Dieu est garanti si nous le laissons agir en nous. Quelques mots de conclusion. Si notre Dieu nous dit « stop, maintenant ça suffit », n'adoptons pas la posture « j'assume, je vais m'en sortir par moi-même ». Notre Dieu, le Dieu de toute grâce, ne veut pas que nous nous dépatouillons tout seuls dans nos problèmes. Même quand nos problèmes proviennent de nos erreurs et de nos révoltes contre lui, il est lui la solution. Il n'attend qu'une chose, que nous revenions à lui pour nous accueillir et nous consoler. Alors voilà, retenons ces mots d'ordre tirés de ce petit livre des Lamentations. Lucidité assumée. Oui, nous péchons. Souveraineté affirmée. Dieu contrôle tout. Cela inclut les conséquences de nos bêtises. Cette souveraineté est aussi source de réconfort. Rien ne lui échappe. Chagrin déversé. Notre Dieu et Père attend que nous lui disions notre tristesse. Ici, notre tristesse causée par notre révolte contre lui et ses conséquences. Chemin retrouvé. Revenons à lui. C'est un chemin que lui-même nous garantit. Je termine avec un dernier mot qui prend le contre-pied de la situation de Jérémie et de ses contemporains, qui est un petit peu le contre-pied de tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, mais qui montre encore une fois la grâce de Dieu. Alors, il s'agit d'une prière qui a été prononcée ici lorsque j'étais adolescente ou jeune adulte, je ne sais plus très bien. Celui qui l'a dite est aujourd'hui auprès du Seigneur. C'était une prière courte, mais on voyait qu'elle avait du poids. Elle reflétait son vécu sur lequel il avait réfléchi et qu'il avait repassé dans son cœur. Voici ce qu'il a dit à Dieu. « Merci parce que tu ne nous livres pas aux conséquences de nos actes. » Et effectivement, souvent le Seigneur nous délivre du pire, ou plus simplement de petits tracas. Il nous permet d'échapper à ce qui pourrait nous arriver à cause de ce que nous faisons de travers. Parfois nous en sommes conscients, parfois non, mais dans tous les cas, merci à lui. Amen.